Je sais que plusieurs d'entre nous ont vraiment besoin d'entendre la voix du Seigneur. Souvent vous priez, Seigneur, donne-nous un bon message. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui voudrait vraiment entendre Dieu parler à son âme, à son cœur? Alors on va lire dans le psaume 46. Je vais vous donner des textes, celui-là je ne le commenterai pas. C'est à vous de chercher l'enseignement, même si vous avez lu les psaumes plusieurs fois. Croyez-moi, je suis assez bien placé pour savoir qu'on peut lire un texte 500 fois et en retirer quelque chose la 501e fois. Psaume 46, verset 4. On va lire verset 3. Psaume 46, verset 3. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel. Les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Nous allons lire dans 1 Samuel, s'il vous plaît. Nous allons lire dans 1 Samuel au chapitre 9, verset 1er. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tsézor, fils de Bécora, fils d'Achia, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Verset 11. Verset 11. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et ils leur dirent, le voyant est-il ici? Alors pour comprendre cette question, lisez le verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons vers le voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Ça n'a rien à voir avec la voyance qui est une abomination, bien sûr, par Dieu. Verset 12. Verset 13. « Quand vous serez entré dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc, car demain vous le trouverez. » Et ils montèrent à la ville, ils étaient arrivés au milieu de la ville, quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Et il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ?» Samuel répondit à Saül « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. » C'est ça, mes frères, qu'on a besoin. « Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père ?» Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, « Sers la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. » Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure et il la servit à Saül. Et Samuel dit, « Voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange. » car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. » Alors Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit « Viens et je te laisserai partir. » Saül se leva et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent redescendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Et le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, » reprit Samuel, « et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel, ne t'a-t-il pas oint pourquoi tu sois le chef de son héritage. » Amen. Il y a des choses qui se passent dans notre cœur. Vous l'avez lu avec moi. Samuel va préparer ce jeune homme à quelque chose de plus élevé. Et je pense que cette histoire, elle est là pour que nous aussi, nous apprenions à nous préparer pour des choses qui sont plus élevées. Il y a des choses que nous n'arrivons pas à déceler nous-mêmes. Il y a des choses que seul Dieu peut déceler. Lorsque le jeune homme riche a été vers Jésus avec de très très bonnes intentions, c'est un homme qui avait un bon curriculum vitae, comme on dit, qui s'appliquait, mais il y avait quelque chose dans son cœur que seul Dieu pouvait déceler. Et malgré l'approche correcte, ce jeune homme est reparti tout triste parce qu'il n'a pas compris que son problème était lié à l'argent. Et il y a des souffrances qui sont normales. Armez-vous de la pensée de souffrir. Il y a des combats, il y a des luttes, tout ça. Il faut l'accepter. Mais il y a des souffrances inutiles, croyez-moi. Est-ce que nous sommes conscients ce matin que nous sommes dans la maison de Dieu ? Pour beaucoup de gens, ils sont dans une salle, ils sont dans une église, dans une dénomination, et comme le jeune homme riche, qui était un chef, c'était un responsable. Et si nous voulons devenir des gens responsables, par rapport aux œuvres que Dieu a préparées, ça serait peut-être bien de comprendre pourquoi ce jeune homme est reparti tout triste, alors que Jésus lui a parlé. Il l'a appelé bon maître. Pour beaucoup de chrétiens, Dieu est bon. Et beaucoup de cantiques expriment la bonté de Dieu, c'est vrai, mais Dieu n'est pas que bon. Vous avez vu les gens qui se sont approchés de Jésus et qui ont dit « Tu es le fils de Dieu, tu es le fils de David ?» Les gens qui se sont approchés de Jésus et qui ont réalisé que Jésus était Dieu, c'est bizarre comment ça s'est bien passé. Mais lorsque les gens s'approchent de Jésus d'une manière légère, lorsqu'on vient à l'église avec beaucoup de légèreté, ben le résultat, ça sera la légèreté. C'est ce qui est arrivé à ce chef qui va pas, à nos yeux, à nous, s'est approché de la manière la plus correcte qui soit. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous sommes faibles, nous sommes tels que nous sommes, mais nous sommes dans la maison de Dieu. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que nos réunions certainement s'élèveraient si nous comprenions que nous avons affaire à la parole de Dieu, à Dieu lui-même. Vous le croyez ? On a un rendez-vous avec Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais leur comportement, leur vocabulaire, leur tenue, je suis pas pour la tenue vestimentaire super sophistiquée, mais il me semble quand même que quand on vient dans la maison de Dieu, on a un rendez-vous avec le Seigneur. Vous avez dit, ouais, t'es un légaliste. Écoutez-moi, frères et sœurs. Je voudrais surtout que nous ne manquions pas les rendez-vous divins que Dieu nous accorde. Et Dieu en veut. C'est sûr que s'il n'y a pas de respect pour Dieu, écoutez bien, c'est simple, c'est écrit. Tout ce que je vous dis, c'est biblique. S'il n'y a pas de respect pour Dieu, il va en arriver que ça sera comme dans l'église de Laodicée, où le Seigneur Jésus est à la porte, il frappe et il dit si quelqu'un entend ma voix. Et le problème, il est là. C'est que beaucoup de chrétiens ne peuvent plus entendre Dieu leur parler. C'est un drame dans les églises. L'apostasie qui s'est installée dans les églises est le résultat de tout ça. Ou le légalisme qui a amené la désapprobation de Dieu, ou le laxisme qui a amené l'apostasie. Ça va être difficile. Et moi, j'ai envie d'entendre la voix de Dieu. Est-ce que tu as envie, mon frère, ma sœur, d'entendre vraiment Dieu te parler ? Parce que Dieu veut parler. Ça serait beau si ce matin, quelqu'un, en tous les cas, Dieu va le voir, disait dans son cœur, « Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin d'entendre ta voix. » Moi, j'ai perdu des années, moi, le premier. Et ne nous culpabilisons pas par rapport à ça. Quand on chante, vous savez, à 25 ans, « Combien est grande ta patience ?» On l'a chanté, « Combien tu as de patience ?» C'est bizarre comment à 60 ans, on le chante avec encore plus de reconnaissance, parce que plus on vieillit, plus on trouve que la patience de Dieu, elle est grande. Ça serait bien que quelqu'un croie de tout son cœur ce que Dieu a dit dans le psaume 32. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Est-ce que ça vous attire cette affaire ? Que Dieu te dise, je te conseillerai, je te conduirai dans la voie que tu dois suivre. Natacha, ce matin, dans sa prière, rappelait un verset d'Ésaïe et de Jérémie, que nos voies ne sont pas nos voies. C'est bien ça ? Que nos pensées ne sont pas nos pensées. C'est vrai que c'est un vrai problème. Mais quand on l'a compris, eh bien, ça peut nous aider à nous dire, mais oui, je veux que tu m'instruises. Je veux que tu m'instruises. Cette histoire que nous avons lue est une belle histoire qui nous montre que Dieu conduit les circonstances de la vie pour nous amener à quelque chose de plus haut. Saül a perdu les ânesses. Vous allez me dire, eh ben moi ça risque pas de m'oublier, de m'arriver. C'est vrai que ça m'étonnerait que quelqu'un parmi vous ait oublié ses ânesses ce matin dans un champ. Mais Dieu utilise les circonstances. Et mes frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous vivez. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Il y a des choses qui nous contrarient. Perdre des ânesses. Quelle belle image d'un Dieu qui contrôle tout. Vous croyez que Dieu contrôle les circonstances de votre vie? Que Dieu peut vous amener à ce que vous perdiez certaines choses, que vous égariez certaines choses? Ou ça vous contrarie aussi si vous perdiez votre voiture, vous ne savez plus où elle est. Bon, elle ne va pas s'égarer toute seule. Mais imaginons que vous perdiez certaines choses. Qu'est-ce que vous faites, au fait, quand vous perdez certaines choses? On cherche partout. Mais Dieu, mes frères et sœurs, dans sa immense intelligence, dans son immense puissance, contrôle tout. Même la chute d'un oiseau est contrôlée par Dieu. Peut-être que vous ne le croyez pas, mais moi je vous dis que Dieu contrôle tout dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux. Il veut que vous entriez dans des œuvres. C'est écrit, un des dons spirituels l'a rappelé. Je ne sais pas si vous écoutez les dons spirituels. L'avant-dernier don rappelait que toute cette approche doit nous amener à entrer dans les œuvres, les belles œuvres, parce qu'il est parlé de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Si nous passons notre temps à nous occuper des ânesses, des circonstances qui nous échappent, nous allons passer à côté d'un rendez-vous que Dieu voudrait que nous ayons. Vous ne le savez pas, l'œuvre que Dieu veut que vous fassiez. Il m'a fallu arriver presque à mon âge pour que le Seigneur m'oriente vraiment vers la formation des pasteurs. Et je le vois, ça se fait tout seul. Mais il y a des étapes. Et il y a des étapes, il faut accepter. Saül était, au départ, était très bien parce qu'il était humble. Donc il a écouté, son père lui a dit, écoute, va chercher les ânesses. Il va le faire. S'il était resté comme ça, il n'aurait pas terminé comme il a terminé. En consultant une sorcière et en se suicidant. Vous avez vu comment on peut vite, vite déraper. On peut même se demander comment un homme qui a commencé comme ça peut finir de la sorte. Regardez à Chipotel, cet homme, comment il a terminé. C'est presque incroyable. Comme quoi, mes frères et sœurs, il faut veiller sur son âme attentivement. Je ne sais pas à quoi vous pensez en ce moment. À quoi vous pensez, de manière générale? Qu'est-ce que c'est qui vous préoccupe? Est-ce que ce sont vos ânesses, vos activités matérielles et dont il faut s'occuper? Il faut absolument bien s'occuper si vous avez un travail. Mais Dieu peut permettre que vous perdiez votre travail. Oh, oui. Et il y a quelqu'un dans cette église qui a besoin de savoir qu'il va perdre son travail pour pouvoir servir Dieu. Nous, on est là avec nos ânesses. On s'inquiète. D'ailleurs, la sollicitude du Seigneur lui dit, mais ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. On le sait, on le sait. Nous entendons depuis le jour de notre conversion le Saint-Esprit parler et nous rappeler, ne vous inquiétez de rien. Bon, c'est sûr que on le sait. C'est un petit peu plus difficile à concrétiser. Oui ou non? Soyons honnêtes. Mais Dieu le rappelle régulièrement. Pourquoi? Ben parce qu'on en a besoin. Et ne nous traumatisons pas parce que nous avons du mal à entrer dans cette obéissance joyeuse. Mais nous, on s'inquiète alors que Dieu nous dit, mais ne t'inquiète pas des ânesses. Vous savez, le Seigneur, il sait de quoi vous êtes en train de vous inquiéter. Peut-être que vous êtes en train de vous inquiéter pour le choix de votre conjoint. Ça vous obsède. C'est pas interdit. Peut-être que vous êtes en train de vous obséder pour l'achat de votre nouvelle voiture ou l'achat de votre nouvelle maison. Occupez-vous-en bien. N'achetez pas, ne vous précipitez pas, surtout dans le mariage. C'est normal. Et Dieu, on le voit dans ce texte, c'est simple. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour ton mari. Ne t'inquiète pas pour le choix de ta femme. Ne t'inquiète pas pour ça, je m'en occupe. Vous le croyez que ça vient de Dieu, ça? Vous croyez que Dieu peut pourvoir à tous nos besoins? Vous avez vu à qui Dieu dit ça? À qui il le dit? À quelle église il le dit? Aux Philippiens. Dieu dit aux Philippiens, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Pourquoi? Parce que c'est une église, quand Paul leur a écrit, vous savez, je suis à Thessalonique, j'ai besoin d'aide. Et Paul dit, vous avez été les seuls à le faire, à vous occuper de moi. Et Dieu pourvoit. Nous avons entendu le témoignage de notre sœur, Madame Koudougou, qui nous fait part d'un projet au Burkina Faso. Peut-être qu'on sera la seule église à les aider. Avec 3 boîtes de Doliprane, avec des trucs qu'on a entendu. On va s'en occuper. Peut-être Dieu nous dira dans le ciel, vous avez été la seule église à le faire. Ça vous plaît? Mais si on fait ces choses, c'est pour ça qu'il faut arrêter de s'inquiéter des ânesses et commencer à dire, mais quelle est la chose que tu veux? Quel est le niveau spirituel dans lequel tu veux que je me trouve? Il y a des chrétiens, ils ont 20 ans, 30 ans de conversion, ils s'occupent toujours de leurs ânesses. Ils sont obsédés par les choses matérielles. Moi, je bénis Dieu pour le matériel. Je bénis Dieu de vivre en France. D'avoir tout ce qu'on a. Vous trouvez pas que c'est bien? Mais quand Dieu te dit, peut-être nous on le dit maladroitement, mais quand le Seigneur te dit ne t'inquiète de rien, on devrait quand même. J'ai pas besoin de Dieu pourvoir. Il a pourvu jusqu'à aujourd'hui. Il y a combien que vous êtes convertis? Vous pouvez dire, oui, moi, ça fait 40 ans, 50 ans, 100 ans, comme le frère devant. Hein? 100 ans, Dieu pourvoit, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle ? Mais oui, Dieu est fidèle. Je crois que Dieu s'occupe de ces choses, à condition que nous, nous nous occupions des siennes. Alors la question qu'il faut quand même poser dans, aujourd'hui, en pleine apostasie dans les églises, parce qu'il n'y a pas que vous qui écoutez cette prédication. La question qu'il faut se poser, c'est, bon, est-ce que nous sommes ses enfants? Parce que beaucoup de chrétiens baptisés ne sont pas nés de nouveau. Ça, c'est notre problème. Mais vous le savez que c'est vrai. Il y a plein de chrétiens, c'est clair, ils ne sont pas nés de nouveau. Si nous ne sommes pas ses enfants, le premier plan, c'est la nouvelle naissance. C'est le salut de l'âme. Mais si nous sommes devenus ses enfants, nous sommes ses cohéritiers, ses héritiers, et si nous sommes passés par la nouvelle naissance, parce qu'il y a une différence entre la repentance et la conversion. Mais mon frère, ma sœur, est-ce que tu es né de nouveau? Si tu es né de nouveau, tu sais pertinemment que Dieu a un projet pour toi. C'est vrai que ce projet, il peut tarder. Moi, je suis soucieux de, vous savez, de faire des progrès aussi. Moi, j'ai été raide parfois, en pensant être intègre. J'ai été dur, en pensant être ferme. C'est vite fait de basculer. J'en ai honte d'avoir été un mauvais serviteur. Et je sais que Dieu est patient. Quand on chantait « Combien Dieu a de patience envers nous », je disais merci. Moi, je ne sais pas pourquoi Dieu avait dit qu'il mettrait 400 ans à sortir les Hébreux du pays d'Égypte, et en vérité, ça a mis combien ? 430 ans. Pourquoi Dieu s'est-il trompé ? Bien sûr que non. Moïse n'était-il pas prêt ? C'est vraisemblable. Moïse, il n'était pas prêt, il aurait pu commencer 30 ans plus tôt ? Ben oui. Vous allez me dire, mais où vas-tu ? Ben je voudrais vous expliquer que même si on est appelé à faire certaines choses, on peut perdre du temps. Et qu'il ne faut pas non plus se traumatiser, se culpabiliser, parce que la culpabilité, la mauvaise culpabilité, elle ne vient pas de Dieu. C'est très difficile de discerner la culpabilité satanique et la bonne culpabilité qui vient du Seigneur. Quand ça vient du diable, ça nous écrase. Quand ça vient de Dieu, ça nous libère, si on obéit. Dieu a des choses en réserve. Il a choisi Saül, il avait vu son cœur, même si Père Dieu savait très bien qu'il allait choisir de désobéir. Au début, il faisait l'affaire. Et j'espère que ce matin, il y a parmi nous des gens qui vont bien commencer et bien sûr bien finir. Quelle est l'activité dans laquelle Dieu veut que je sois? Ce matin, un don spirituel en a parlé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Vous allez vous en souvenir en lisant avec moi dans Jacques. Vous savez, les trois derniers dons étaient vraiment le résumé de la prédication. Dans Jacques, au chapitre 1er, il est parlé de la façon dont on écoute la parole. Jacques 1, verset 22 à verset 25. Ce texte, vous le connaissez peut-être, mais je vous encourage à le méditer cette semaine pour que nous sortions peut-être de l'inactivité ou d'une fausse activité pour entrer dans la bonne. Parce que la bonne, regardez ce qu'elle fait. Jacques 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter. » C'est ce qui arrive à des millions de chrétiens sur la terre, ils écoutent, mais ça s'arrête là. « En vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais, qu'est-ce qu'il va faire? Se mettant à l'œuvre, qu'est-ce qu'il va être? Celui-là sera heureux. Il y a un bonheur à être actif pour Dieu. Il y a une activité qui est joyeuse. C'est celle que Dieu nous demande. C'est la loi parfaite, mais au verset, tiens, on pourrait lire le verset 8 du chapitre 2. Parce que ça complète la prédication, Jacques 2, verset 8. « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » Je vous encourage à méditer cet épître qui est vraiment pratique. Une activité, qu'elle soit humaine ou surnaturel, parce que Dieu est le Dieu du surnaturel aussi. Vous le croyez toujours. Que Dieu est l'Éternel qui guérit, qui sauve, qui fait des miracles. Vous le croyez? Oui. Dieu a le pouvoir de nous faire faire de nouvelles expériences. Celui qui plonge ses regards. Vous avez entendu le deuxième don? La personne à qui s'adressait ce don doit être terriblement pétrifiée parce que c'est une personne qui ne prend pas le temps de s'arrêter. Et quand tu vas passer devant Dieu, est-ce que tu t'imagines un instant pouvoir lui dire « Seigneur, je n'avais pas le temps. Je suis un homme d'affaires, moi j'ai pas un quart d'heure à te consacrer. Moi je suis patron. » Oui. Je ne sais pas, vous le voyez. Mais il y a une voix royale, une loi royale. Nous sommes cohéritiers, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous n'en rendons pas compte, nous, c'est vrai qu'on est pécheurs. Quand on m'a demandé de me présenter cette semaine à Montpellier dans cette église, on m'a demandé, monsieur Gau, présentez-vous. J'ai dit, écoutez, je n'avais pas le temps. J'ai dit, je suis un pécheur sauvé par grâce. C'est bon comme présentation? Bon. Nous sommes des pécheurs, d'accord. Mais nous sommes destinés à être des rois et des sacrificateurs dans les cieux. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais bon, ce n'est pas le moment. Si vous accomplissez la loi royale, Dieu voulait, par les circonstances, amener Saül à quelque chose de plus élevé. Écoutez-moi, je ne sais pas si vous comprenez ma méditation. Dieu sait où tu en es. Il veut parler à ton cœur, il ne peut pas. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas t'endurcir? Parce que lorsque Dieu nous parle et qu'on n'écoute pas, on n'ajourne pas, on s'endurcit. Même si la deuxième conséquence est l'ajournement. Est-ce que vous croyez, comme on l'a lu tout à l'heure, je te montrerai la voie que tu dois suivre? Il y a quelqu'un qui a besoin d'une direction? Seigneur, dans mon service, peut-être c'est comme cette sœur là qui m'a dit, monsieur Gau, moi, je peux faire qu'une visite par mois. Mais moi, je trouve que c'est déjà bien. Demain, je sais qu'il me faudrait quelque chose d'un pasteur, de manière très solennelle. Je ne sais pas comment il va l'accepter, mais je sais que ça vient de Dieu. Moi, je le sais. Je te ferai entendre ce qu'il y a dans ton cœur. Je sais, Dieu peut retenir, mais mon fils, tu sais ce qu'il y a dans ton cœur. Et nous ne devons pas nous sous-estimer. Vous savez, moi, quand je suis rentré dans le ministère, je vous le dis, je n'aime pas parler de moi. Je dis aux jeunes pasteurs, ne parlez pas de vous quand vous prêchez, ça ne sert à rien. Mais il n'empêche que quand je suis rentré dans le ministère, le soir même que j'ai dit oui, parce que j'étais poussé, j'ai dit à Dieu, je pense, je l'ai fait sérieusement, que c'est la première fois que tu te trompes. Et j'étais sûr qu'il se trompait. Vraiment, je le pensais. Si, Seigneur, tu t'es trompé. En plus, à l'époque, c'était très intelligent. Vous voyez, on partait du principe, comme ça, on disait que les gars qui rentraient dans le ministère, c'était les meilleurs. Vous voyez, un truc qui n'est pas du tout biblique. Du tout, c'est pas du tout biblique. Ça, c'est vraiment grave de dire ça. Arrête-toi. Arrête-toi. Je pense que si j'avais eu beaucoup de courage, j'aurais pu dire 200 fois de suite à l'auditoire, arrête-toi. Arrête-toi. Bon, vous auriez dit là, il est temps qu'ils prennent un peu de repos. Mais je ne suis pas du tout sûr que le Saint-Esprit aurait été en désaccord avec cette affaire. Que nous entendions 200 fois de suite comme il faut taper 200 fois sur un clou pour qu'il soit définitivement enfoncé. Arrête-toi. Est-ce que vous entendez le Saint-Esprit vous parler? Arrête-toi. Oui, il y a les ânesses. Oui, je sais, elles sont à ton père. Et c'est bien d'être soucieux, scrupuleux, sérieux. Restez-le. Mais il y a des choses plus élevées, frères et sœurs. Jésus va bientôt revenir. Vous le croyez? Il va revenir. Il faut s'arrêter. Arrête-toi. Il a demandé, vous avez vu, on relit le verset 27? On le relit, c'est un verset merveilleux que Dieu a laissé dans les Saintes Écritures pour que vous et moi, nous puissions entendre la voix de Dieu. Quand il fut redescendu à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » C'est bien la communion fraternelle, et je vous exhorte à aimer la communion fraternelle. Des fois, vous restez là jusqu'à 2 heures le dimanche après-midi, et vous avez raison. Et je vous encourage à aimer la communion fraternelle. Mais il y a des moments absolument, il faut être seul avec le serviteur, le grand serviteur. Arrête-toi, tu vois les activités. Tu te rends compte, vous rappelez du deuxième don spirituel? Quelqu'un pourrait me l'écrire? Quelqu'un pourrait le résumer? Je sais qu'on ne peut pas tout retenir, je le sais. Mais mes frères et sœurs, le flot d'activité, combien l'ennemi se charge de nous submerger d'activité? Combien l'ennemi se charge de nous mettre la pression et le monde entier sous l'influence de Satan. Mais la pression au monde entier, vous écoutez les informations, tout est fait pour vous mettre la pression. Tout. Insidieusement. Imperceptiblement. Ou violemment. Tout est fait pour qu'on soit sous pression. Et vous le savez, vous qui êtes dans des entreprises. Vous le savez. Mais ce n'est pas dans l'agitation qu'un homme peut recevoir la pensée de Dieu. Samuel dit à Saül, écoute, ton serviteur, sépare-toi de ton serviteur. Je vais te faire entendre la parole de Dieu. Recevoir la pensée de Dieu. Si les pasteurs m'écoutent, si vous écoutez cette prédication, les pasteurs, arrêtez-vous et arrêtez de courir parce que vous êtes sous la pression de l'Église qui vous oblige à faire ci, à faire ça. Il y a des pasteurs qui ont dû arrêter le ministère parce qu'ils étaient embrasés par le secrétariat, l'administration et l'organisation, etc. Et moi, je bénis Dieu pour mes frères et sœurs du Conseil. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Parce que si j'ai fait des progrès, c'est grâce à vous qui m'avez libéré de toutes les tâches administratives. Que Dieu vous bénisse, tous les frères et sœurs du Conseil. Merci, c'est la vérité. Vous auriez pu étouffer mon ministère, vous avez contribué à l'épanouissement de mon ministère. Merci. Du fond du cœur, je vous le dis. Je le dis à toute l'Église, je le dis souvent au Conseil, mais je tiens à ce que vous le sachiez. Parce qu'il faut prier vraiment pour que les pasteurs dans les conseils d'administration soient libérés de cette casquette qui ne sert à rien. Il faut que nous soyons des hommes de Dieu. Entendre la voix de Dieu. Arrête-toi, j'ai une parole de Dieu pour toi. Moi, je peux vous parler. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on les reçoit du Seigneur. J'en ai parlé dernièrement lorsque Paul dit, voilà, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère de Christ. On est jaloux quand on lit ces épîtres de Paul, vous avez compris. On est touché et pourtant il dira souvent, mais j'ai appris. Il a appris par les frères et par les sœurs certaines choses. Apprends à t'arrêter et à te retrouver seul avec le grand serviteur de Dieu. Le grand Dieu de l'univers, c'est pas un bon maître. Je reviens à mon jeune homme riche. Si le jeune homme riche, avec tous les titres qu'il avait de chef, il avait compris avec qui il avait affaire, je peux vous dire qu'il le dit là, c'est même pas la peine de négocier la désobéissance. C'est tellement simple. Qu'est-ce que Paul dit aux Éphésiens justement? Mais arrête-toi, il dit pas ça exactement. Il dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Je pourrais nous le dire ce matin, mais réveille-toi. Toi qui dors et qui ne penses qu'à tes ânesses, à ton portable. Il y a des gens, si le portable est en vrac, je peux vous dire que le lendemain, ils seront à l'ouverture chez tel opérateur. Il faudra qu'il soit réparé, mon téléphone. Si on faisait pareil avec notre communion avec Dieu, si elle est un petit peu abîmée, si de suite on s'occupait de la rétablir, je pense qu'on aurait d'autres résultats. Et je ne veux pas culpabiliser personne. Je veux nous aider à ce que nous entendions ce grand Dieu, comme on l'a lu dans le psaume 46, qui exprime sa puissance, sa grandeur. Il y a un fleuve, on l'a chanté, torrent d'amour et de grâce. Ça rejoint le psaume 46. Ce Dieu qui dit, mais arrêtez. Il exprime sa grandeur et puis il dit, mais arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Je domine dans les cieux. Alors si vous êtes léger, vous pouvez dire, ah oui, Dieu domine avec ce qui se passait là et dans tel endroit. Attendons la fin et on verra qui c'est qui domine. Je ne sais pas où vous en êtes. Comme les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs qui étaient en vrac. Le Seigneur les a rejoints, il a fallu qu'ils s'arrêtent. Reste avec nous. Et là, leurs yeux se sont éclairés. Parce qu'ils étaient seuls avec Jésus. C'était la nuit, mais Jésus était là. Et il est dit qu'il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Mes frères et sœurs, je ne sais pas où vous en êtes, mais Dieu le sait. Et Dieu, il sait où sont vos années, vous en êtes avec vos téléphones, avec vos télés. Moi, hier encore, on m'a posé la question, mais est-ce qu'on peut regarder la télé? Je dis, ben oui, bien sûr. Mais on sait très bien ce qui est sain de ce qui est malsain. Écoutez, si vous ne croyez pas ces choses, vraiment, vous avez besoin de nouvelles naissances. On sait ce qui est sain de ce qui est malsain. Quelqu'un qui est né de nouveau, il sait très bien ce qui est sain et ce qui est malsain. Ne soyez ni pour ni contre. C'est comme un couteau. On m'a posé la question, mais la télé et un couteau. Un couteau, est-ce que c'est bien? C'est bien ou c'est pas bien un couteau? Ben oui, c'est pareil. C'est pareil, il y a des milliers de gens qui ont perdu la vie à cause du couteau que quelqu'un d'autre tenait en face d'eux. Il y a des millions de gens qui ont été délivrés à cause d'un couteau. C'est pareil. Et nous devrions arrêter de nous chipoter. Il y a des chrétiens qui se sont disputés pour des choses... pour des opinions. Alors qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Ne discutez pas les opinions. Paul dit à Timothée, tu seras propre à toute bonne œuvre. Mon frère, ma soeur, moi, ma prédication elle est finie. Ah, comment voulons-nous élever notre niveau? Où tu en es? Et vous savez, je veux terminer bien sûr avec de la douceur. Et j'avais sur mon cœur hier, ce matin, dans la prière... pour conclure ce culte, quand Jésus dit, mais aujourd'hui, quelle grâce. Aujourd'hui, c'était le don spirituel aussi. Si tu entends sa voix, Dieu pourrait nous dire, mais aujourd'hui, mais c'est fini mon ami. Mais c'est fini, oui ou non? Soyons sérieux, est-ce que ce matin le Seigneur pourrait dire à plusieurs parmi nous, mais mon ami c'est terminé. Ça fait tant d'années que tu me fais attendre, il n'y a pas d'aujourd'hui, il n'y en a plus d'aujourd'hui. Mais ce ne serait pas vrai. Dieu dit encore, dans son infinie patience, aujourd'hui, tu peux t'arrêter pour entendre sa voix, que son nom soit béni. Où que tu sois, dans quel état tu sois, si tu ne vas pas bien, si tu en as marre, tout ça. Eh bien oui, aujourd'hui, tant que le Seigneur est assis sur le trône de la grâce, ça ne devrait pas durer longtemps, d'après moi. Mais tant que Jésus est assis sur le trône de la grâce, il te dit ce matin, aujourd'hui, élève le niveau. Ne t'occupe pas des ânesses. Moi, je m'en occupe. Moi, je m'occupe de tous tes problèmes matériels. Si tu veux un entretien avec moi, je te parlerai. Parce que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle à l'Église. Et si Dieu veut que tu sois propre à toute bonne œuvre, moi, je ne sais pas. Moi, je bénis Dieu quand je vous ai dit tout à l'heure que je pensais que Dieu s'était trompé. Je le pensais vraiment. J'étais sûr que Dieu se trompait. Bon, apparemment, ça fait 35 ans qu'il se trompe. Mais je crois que Dieu, il sait ce qu'il veut faire avec toi. Alors arrête avec tes ânesses. Hein. Arrête-toi. Dieu s'occupera de tous tes problèmes si tu t'occupes de son œuvre. On lui demande de l'aide. Est-ce qu'on pourrait se recueillir? Simplement, demandez de l'aide au Seigneur. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je crois qu'on est le 9 septembre 2018, le Seigneur te dit, mon frère, ma sœur, son fils, sa fille, aujourd'hui je te propose quelque chose. Est-ce que tu veux entendre ma voix? Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Oui, tes pensées ne sont pas mes pensées. Tes voix ne sont pas mes voix, mais moi j'ai des voix et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Est-ce qu'il y a un frère, une sœur, quelqu'un au milieu de nous? Peut-être vous venez pour la première fois, vous dites c'est vrai, je suis trop préoccupé par les ânesses. Je suis trop préoccupé par mon boulot. Je veux être seul avec mon Seigneur. Ça ne veut pas dire que vous allez passer 8 heures à genoux, mais que vous allez avoir du temps de qualité, que vous n'avez pas. Demandons-lui de l'aide. Ce n'est pas possible si on est vrai. Ce n'est pas possible qu'il ne nous aide pas. S'il ne nous aide pas, c'est que nous refusons son aide et que nous oublions aussitôt ce que nous avons entendu.
Si vous êtes dans ce cas, ben repentez-vous. Repentez-vous, ça peut arriver. Moi, j'y étais dans ce cas en étant pasteur, vous inquiétez pas. Je n'ai pas été le meilleur, croyez-moi. Et je ne le suis toujours pas. Et moi, je ne veux pas l'être. Je veux être un disciple qui obéit. Prions, frères et sœurs, prions, simplement. Notre Père, notre Dieu, nous avons chanté que tu étais précieux pour nous. Et tu l'es, Seigneur. Tu es le bien le plus précieux de notre âme. Tu règnes au siècle des siècles dans l'univers. Et tu es devenu notre Père. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où les occupations humaines nous ont trop accaparés. Pardon, Seigneur. Nous croyons que tu appelles chacun de tes enfants nés de nouveau à des choses plus élevées, à des bonnes œuvres. Même si c'est vrai qu'une visite par mois, Seigneur, aide-nous à faire les petites choses de bon cœur. Si tu nous as pas repris encore, c'est parce qu'il y a du travail, Seigneur. Et je te prie pour les aînés au milieu de nous afin que tu les bénisses, tous, et qu'ils sachent tous que s'ils sont là, c'est que tu as encore besoin d'eux. Bénis tous nos frères et sœurs âgés dans la foi. S'il te plaît, Seigneur. Nous te prions pour tous les jeunes, afin qu'ils se désolidarisent de ces activités technologiques, pour qu'ils entrent dans les choses que tu as préparées pour eux, afin que l'Église soit prête pour le jour où tu reviendras nous chercher. Oui, nous te bénissons, Seigneur. Nous te demandons cette aide, nous te demandons pardon. Merci pour ta patience, qui est notre salut. Apprends-nous à t'écouter, Seigneur. Apprends-le aux jeunes serviteurs dans l'Église, aux responsables, à ceux qui prêchent ta parole. Seigneur, merci pour ta patience. Merci pour ton aide, pour le confort dans lequel tu nous permets de vivre aussi. Oui, notre âme, nos âmes te bénissent et ne veulent oublier aucun bienfait. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ta volonté soit faite. Amen.